Éco 24, la rubrique économique locale. Happy
Radio. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Happy Radio et pour cette Éco 24, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Thirion. Bonjour Paul.
Bonjour à vous et puis comme on vient de commencer l'année, bonne année à tous.
Merci, mais également aux auditeurs, bonne année. Donc Paul, vous êtes apiculteur et j'insiste sur le happy puisque vous vous décrivez et l'écrivez comme Happy Radio, donc vous étiez fait pour nous, franchement, il n'y a pas de doute. Apiculteur, vous avez donc créé Erika Spirit où vous vendez du miel, mais pas que, ce n'était même pas l'idée de départ d'ailleurs. Expliquez-nous tout cela, comment ça s'est créé.
Alors, j'ai d'abord créé une exploitation agricole qui s'appelait Le Miel Noir à l'époque. Et donc, le but était de produire du miel, de vendre du miel. J'ai 500 colonies d'abeilles à peu près. Et c'est un métier où, en fait, on travaille beaucoup seul. Et j'en avais un petit peu marre de travailler seul. Donc, je réfléchissais à un projet en parallèle de ça au départ. Et je me suis lancé avec deux copains pour créer cette société qui s'appelle Erika Spirit. Avec pour but au départ de produire du gin. Et l'idée, c'est que moi, je voulais pas arrêter l'apiculture. Donc, fallait que je réussisse à préserver un lien entre l'apiculture et les distillations qu'on faisait. Donc on a créé une recette qui nous a pris un an et demi, quelque chose comme ça, pour utiliser le miel dans la distillation. Et au final, bon, mes deux associés sont partis, mais j'ai continué à essayer de développer cette entreprise et on a étoffé un petit peu la gamme avec toute une gamme de gin, des vodkas. Maintenant on fait des liqueurs qui sont sucrées au miel, des hydromels, dont là le cœur de la production d'hydromel, c'est vraiment de l'eau, du miel, et on transforme, on transforme 100% le miel en apéritif, on va dire.
Et comment ça se fait? Comment on passe du miel à l'alcool? Il y a un processus?
Techniquement, j'allais dire, oui. Comment moi je me retrouve
quel est le processus?
Alors le processus, dans un premier temps, déjà il faut produire du miel, donc il y a les colonies d'abeilles qu'on mène toute la saison, on va récolter le miel, on extrait ce miel, on le stocke en fût de 300 kg, et ensuite ce miel on l'utilise comme ingrédient dans les gins, donc on vient l'incorporer en macération avant la distillation pour une partie des gins qu'on fait. Sur certains autres gins, on vient refaire des macérations de plantes et refaire également, resucrer pardon, avec du miel. Sur les liqueurs, une liqueur c'est un distillat qu'on vient réduire. La réduction c'est le fait de, quand on sort de l'alambic, on sort à grosso modo 80% d'alcool, et la réduction c'est le fait de descendre ce titrage alcoolique. Donc pour une liqueur, on réduit avec de l'eau et traditionnellement du sucre, et nous on réduit avec de l'eau et du miel.
Ça donne envie en tout cas tout ça. J'ai vu aussi, alors ça j'en parle parce que ça sera le prochain sujet d'un Éco 24, vous avez fait une collaboration avec Caviar de Neuvik aussi.
Absolument.
Comment ça s'est venu, cette collaboration?
Mais je suis pas très bon pour aller chercher les gens. En fait, finalement, c'est la vie qui m'a amené à rencontrer Laurent de Verlange, donc le fondateur de Caviar de Neuvik, parce que dans un premier temps, ma sœur y a travaillé. Elle a discuté avec lui en lui disant que j'avais des ruches. Lui avait quelques ruches, donc ça l'intéressait de m'acheter un essaim ou deux. Et c'est les abeilles qui nous ont amenés à nous connaître et au bout de quelques années à discuter de l'idée de créer une vodka pour Caviar de Neuvik et qui soit vraiment adaptée à la dégustation du caviar.
Ok, ça donne toujours envie. Et puis c'est quand même assez original quand même, du caviar servi de cette façon. Quand vous parlez de vos produits sur votre site internet notamment, vous mettez en avant deux choses. La première, c'est des produits et une production locale. C'est important pour vous?
Pour moi, c'est important parce que je considère que si on veut, comment dire, apporter quelque chose à notre économie locale, si on va chercher des choses qu'on est capable de produire ici à 50 mètres et qu'on préfère aller les chercher à l'autre bout de la terre, finalement, on va financer un autre pays aux dépens de notre économie très locale. Donc aujourd'hui, 100% de ce que j'utilise n'est pas produit en Dordogne, malheureusement, parce que ça prend pas mal de temps de sourcer, etc., de trouver les producteurs, mais on se rapproche d'avoir la majeure partie des produits qu'on utilise dans la distillation qui viennent d'Aquitaine. Après, c'est là où c'est compliqué, c'est sur le contenant, le verre. Il n'y a pas beaucoup de verreries en Dordogne. Mais malgré tout, oui, je considère que même à ma toute petite échelle, j'ai la possibilité de contribuer à l'économie de mon département, de ma région et du pays d'une manière générale. Et si chacun raisonne comme ça, c'est l'histoire des colibris qui essayaient d'éteindre un incendie et qui finalement apportent une toute petite goutte. Un colibri tout seul, il fera rien. Par contre, la multitude de colibris a réussi à éteindre un feu de forêt. Donc c'est les petites actions de chacun au quotidien qui peuvent contribuer à ce que notre économie se passe bien, quoi.
Et la deuxième chose aussi que vous mettez en avant, c'est l'écologie avec par exemple des emballages recyclables et des produits bio. Ça aussi c'est important pour vous, proche de la nature, sûrement.
Absolument, parce que moi, je ne suis pas très vieux, mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand on achetait des vis ou des choses comme ça, il y avait beaucoup de choses en vrac qu'on mettait dans un petit sac en papier et on partait avec. Et plus on avance dans le temps, plus on se retrouve quasiment parfois avec une vis dans un emballage, ce qui est complètement insensé pour moi. Donc c'est pareil, c'est l'action de chacun qui peut contribuer à faire changer un petit peu les choses, à améliorer un peu le quotidien, à réduire un peu les déchets, en effet. Et c'est aussi, donc, en tant que consommateur qu'on peut le faire, mais aussi quand on crée des entreprises, d'essayer d'avoir ce raisonnement, c'est quand même, à mon sens, plutôt bénéfique pour tout le monde.
Oui, en effet, je pense que tout le monde s'y retrouve et retrouve des valeurs aussi en ayant des produits locaux et écologiques.
Et en fait, c'est aussi en se souciant des autres. C'est-à-dire que là, on vit dans une société qui devient un petit peu individualiste. Quand on commence à se dire que on a un voisin, qu'on a des gens qui vivent autour de nous et que tout ce qu'on fait peut avoir une incidence sur eux, on commence à raisonner un petit peu différemment.
Totalement. On a parlé pas mal d'Erika, mais on va parler aussi de votre métier concret d'être apiculteur. Donc, comment ça vous est venu de faire ça? C'est quand même un peu un métier de passion.
Ah ouais, c'est un métier de passion. Et c'est pareil, j'allais dire, c'est une longue histoire, parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans, je suis parti chez les Compagnons pour apprendre le métier d'ébéniste. Et avant, je devais avoir 16 ans, donc l'été d'avant, il fallait que je cherche un petit boulot, et j'ai rencontré un apiculteur, et c'est cet apiculteur-là qui m'a donné le virus. J'ai fabriqué des ruches avec lui, puis l'été suivant, j'avais encore besoin d'un petit peu de boulot, donc je suis allé récolter du miel avec lui. Lui, il avait augmenté le nombre de ruches. Finalement, tous les ans, pendant toute ma vie, avant de décider d'être apiculteur, j'ai bossé avec cet apiculteur-là. Tous les étés, j'allais bosser avec lui, au printemps, dès que je pouvais, en fait, j'allais bosser avec lui.
Donc c'est vraiment une rencontre qui vous a fait rentrer dans cette voie.
Exactement.
Et vous avez le nom de cette personne?
Il s'appelle Pascal Valois, donc c'est un apiculteur qui était dans le Gers et qui aujourd'hui est dans les Yvelines en région parisienne et qui a une exploitation dont j'ai oublié le nom.
on retrouvera peut-être.
Mais je pense qu'en tapant Pascal Valois...
On retrouvera et on le salue peut-être, s'il nous écoutera peut-être. J'ai cru lire que donc, vous êtes proche des abeilles, je suppose, et que vous leur donner un petit nom, c'est lequel? C'est vrai ça?
Bon, non, je pense pas que je leur donne pas de nom. Ah. Enfin, après, ça dépend, c'est au quotidien, c'est des choses qui peuvent arriver, mais oui. Bah, après, je peux les insulter comme je peux leur dire des mots très gentils. Mais après, l'important, c'est... Comment dire? Alors, c'est une symbiose, l'apiculture. C'est-à-dire que nous, on leur apporte... un logement aux colonies d'abeilles, on essaye de les amener à des endroits où il y a à manger, et en contrepartie, on va prélever une partie de ce qu'elles vont récolter. Donc je pense que c'est nécessaire, ne serait-ce que symboliquement, de les remercier à chaque fois qu'on vient faire une petite récolte de miel. Certains appelleront ça une petite prière, mais en tout cas de les remercier et de ne pas considérer que ce sont des outils qui sont là uniquement pour nous faire gagner de l'argent. Certes, l'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, mais faut voir l'argent comme un moyen et du coup rendre à César ce qui est à César et du coup remercier les abeilles de réussir à nous ramener du miel.
En effet, et d'ailleurs, vos abeilles vous ont donné une récompense, il me semble. Votre miel a été récompensé
cette année, ouais, on a présenté plusieurs miels au concours Aquitaine, Saveur Aquitaine, il me semble. Donc, on a le miel de Miela qui a reçu une médaille d'argent.
Ok, mais on peut féliciter les abeilles, donc,
oui, absolument,
d'avoir fait ce travail.
On peut féliciter les abeilles, on peut remercier en tout cas les agriculteurs de préserver un petit peu, en tout cas de faire leur boulot et de faire en sorte que les abeilles puissent vivre, puisqu'en Dordogne, on est loin d'être dans un département où elles sont en mauvaise santé à cause des agriculteurs, au contraire.
Et d'ailleurs, vous n'êtes pas originaire de la Dordogne, il me semble.
Non, je suis né à Fontainebleau, en région parisienne. Et donc, je suis arrivé en Dordogne en 1996.
Et donc, pourquoi la Dordogne?
J'avais 16 ans à l'époque, donc ma mère s'est installée ici et j'ai suivi. Après, je suis parti chez les Compagnons, je me suis baladé à droite à gauche, mais finalement, mon point de repère, c'est devenu la Dordogne. Et en fait, on y est bien. De temps en temps, la région parisienne me manque. J'y retourne pour m'apercevoir qu'on est vraiment mieux en Dordogne.
Mais vous avez raison. Vous avez raison complètement. Moi, je suis arrivé donc il n'y a pas longtemps et franchement, c'est une belle région.
Oui, très bien.
Et donc, pour finir, on peut rappeler aux gens où vous trouvez, que ce soit sur Internet ou sur place peut-être?
Je ne pourrais pas vous dire tous les cavistes chez lesquels on aime. On est chez la plupart des cavistes de Bergerac. Nous, on a notre atelier à l'Escale. Donc c'est l'ancien site militaire qui est à côté du barrage à Bergerac. Vous pouvez venir nous nous voir pour voir un petit peu comment on travaille. C'est important de passer un petit coup de fil avant ou d'envoyer un petit mail pour demander s'il y a quelqu'un, parce qu'on n'est que deux, donc il n'y a pas toujours quelqu'un à l'atelier malheureusement. Et la deuxième question, ouais, on a un site internet ericaspirit.com, vous pouvez trouver tous nos produits.
Eh bien, on espère que ça va donner envie aux gens d'aller déguster du miel ou des liqueurs ou tous ces produits que vous proposez. Merci beaucoup, Paul.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Ce fut un plaisir, franchement, de vous avoir et de vous écouter. On espère pour vous et Erika de la réussite pour cette année. On rappelle tout de même, l'abus d'alcool reste dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Merci beaucoup, Paul.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Éco 24, la rubrique économique locale. Happy Radio.